de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La franc-maçonnerie russe attend toujours son histoire exhaustive, déclarait le professeur André Meigneux, chargé d'enseignement à la faculté des lettres de Poitiers en 1962. Interdite depuis 1822 par le tsar, interdite ensuite par les soviétiques, la franc-maçonnerie russe a peut-être désormais droit de cité et droit à son histoire, exhaustive ou non. Au cours de la causerie qui vient, extraite de l'émission Heure de culture française, les influences allemandes, anglaises, écossaises, suédoises, catholiques, protestantes, étaient nommées à propos de la création de la franc-maçonnerie en Russie. Également citées, Catherine II, la 8e province indépendante, Pétersbourg, Riga, les décabristes et même Cagliostro. Première diffusion sur France 3 nationale le 10 décembre 1962.
La franc-maçonnerie en Russie, par M. André Meigneux, chargé d'enseignement à la faculté des lettres de Poitiers.
L'expression franc-maçonstvo, décalque russe de franc-maçonnerie, semblerait indiquer l'origine française du mouvement en Russie, de même que le français franc-maçon, ou, comme on disait parfois au XVIIIe siècle, free-maçon, traduction de l'anglais free-mason, indique l'origine anglaise de la franc-maçonnerie en France. Mais pour la franc-maçonnerie en Russie, rien n'est moins sûr. Si le mot anglais apparaît dès 1646, si le mot français n'est relevé qu'en 1740, le mot russe, lui, n'a accès dans les dictionnaires qu'en 1847, bien des années après l'interdiction définitive de la maçonnerie en Russie. Bien entendu, l'emploi du mot a plus forte raison ce qu'il représente est, comme toujours, antérieur, et les lexicographes en l'espèce pour la Russie sont en retard sur les faits d'une bonne centaine d'années. Selon une légende fort sujette à caution, c'est Pierre le Grand lui-même qui aurait introduit la maçonnerie en Russie. On ne prête qu'aux riches. La première mention certaine que nous ayons sur la maçonnerie russe remonte à 1731 et au grand maître provincial, capitaine John Phillips, dont le nom n'est guère français. La deuxième, en 1741, signale comme grand maître un certain Jacob Kate, qui semble appartenir à une célèbre famille jacobite d'Écosse. En 1747, puis en 1750, l'attention du gouvernement est pour les premières fois attirée par deux loges fondées, l'une à Pétersbourg, l'autre à Riga. En 1756, la loge de Pétersbourg a comme grand maître un grand seigneur de la famille Vorontsov, comme membre de jeunes officiers de la garde qui se firent connaître plus tard, un prince Cherbatov, le dramaturge Soumarokov, etc. Ils sont déjà sous la surveillance du gouvernement et inspirent une peur panique à la société du temps. Le pitoyable mari de Catherine II, le tsar Pierre III, aurait fondé une loge à Oranienbaum, aujourd'hui Lomonossov. La loge pétersbourgeoise de l'Heureux Accord, fondée en 1762, est reconnue l'année suivante par la loge berlinoise des Trois Globes. Le premier catéchisme maçonnique russe, manuscrit, est trouvé lors d'une perquisition vers la même époque. Voilà à peu près tous les maigres renseignements qu'on possède sur la maçonnerie en Russie jusqu'en 1770. Tout ce que signalent en tout cas les historiens Pupin et Pekarski, les écrivains maçons Yelagin, Navikov, Wapuhin, Longinov. Interdite depuis 1822 par les tsars, interdite toujours par les soviétiques qui la dédaignent comme mouvement religieux, mystique, réactionnaire, en lutte contre le matérialisme et contre l'athéisme, la maçonnerie en Russie attend toujours son histoire exhaustive et c'est dommage, car on pourrait peut-être se rendre compte dans quelle mesure ont joué au début les influences étrangères, dans quelle mesure ont pu se poursuivre sur sol orthodoxe les différences entre les obédiences londoniennes ou écossaises, les influences protestantes ou catholiques, et se prolongèrent en pays neutre des discussions qui dissimulaient en fait la vieille lutte entre partisans des Stuarts catholiques et couronne protestante. Le rôle des disciples du chevalier de Ramsay, notamment, lui-même disciple de Fénelon et encouragé par les jésuites, dont l'influence depuis Posevino sous Ivan le Terrible jusqu'à leur exclusion en 1820 ne cessa guère de s'exercer en Russie, serait particulièrement intéressant à déterminer dans leur rapport avec la maçonnerie. À partir de 1770, l'histoire et le rôle de celle-ci sont mieux connus. Ils sont un morceau, bien entendu, de cette inextricable histoire des variations des loges maçonniques qui reste à écrire et qui attend toujours un Bossuet impartial et peut-être l'attendra longtemps. À partir de l'installation d'une grande loge provinciale à Saint-Pétersbourg, commence, selon le grand maître Yelagin lui-même, l'histoire sérieuse d'une maçonnerie qui, jusque-là, ne prêtait attention qu'aux cérémoniales extérieures, aux discussions oiseuses, lesquelles tournaient souvent à la fête bachique. Yelagin entre en relation avec une loge anglaise, et en 1772, sa loge acceptée, son diplôme de grand maître provincial de toute la Russie en poche, il déploie une grande activité pour diffuser et établir solidement la maçonnerie. Le système qu'il institua porte son nom. D'abord simple fraction du système anglais, ce système ne tarda pas à subir d'autres influences, y compris celle des Rose-Croix, contre laquelle réagit Yelagin en personne. Bientôt, un nommé Zinnendorf, qui devait fonder la grande loge de tous les maçons de terre allemande en 1778, et avait vu son système proliférer en dépit de la condamnation anglaise, vit ses adeptes prendre pied en Russie. Un certain Reichel, venu de Berlin, s'était fait son propagandiste et avait fondé à Pétersbourg un système inspiré de celui du schismatique allemand. Yelagin et ses fidèles ne furent pas d'accord et les protocoles de la loge Uranie en interdirent l'entrée à ceux qui ne reniaient point Reichel. En 1775, Novikov fut reçu d'emblée membre du troisième degré du système d'Yelagin. À cette époque, sous Catherine II, les réunions maçonnes étaient encore publiques et ne faisaient pas naître de soupçons gouvernementaux. D'après Novikov, elles ne s'occupaient que d'études morales et, à tous les degrés, l'application du précepte socratique « gnotis et auton »« connais-toi toi-même » était une règle d'or. Bien qu'il occupât rapidement le plus haut degré, Novikov ne se trouvait pas satisfait par ce système et, avec ses frères maçons, chercha à fondre les deux systèmes d'Yelagin et de Reichel. Par l'engagement du 3 septembre 1776, les loges unies se déclarèrent toutes dépendre de la loge berlinoise Minerve. Reichel tenta d'éloigner les maçons russes de la stricte obédience et des rites qui se recommandaient des Templiers du Moyen-Âge. L'union d'Yelagin et de Reichel, pour un temps, anima la vie maçonnique pétersbourgeoise et la rapprocha de celle de Moscou. Cependant, le charlatan Cagliostro, disciple du célèbre thaumaturge le comte de Saint-Germain, que connaissent tous les lecteurs de la Dame de Pique, Cagliostro donc, fondateur de la maçonnerie égyptienne, est également à l'origine à Paris de la loge mère du rite philosophique écossais qui devait influencer le développement du maçonnisme russe. Vers le même temps, le grand succès chez les maçons russes du livre de Saint-Martin « Des erreurs et de la vérité » donne une nouvelle orientation au mouvement maçon. À cette époque, nous dit Pouchkine, il existait en Russie des gens connus sous le nom de martinistes. Nous avons encore trouvé quelques vieillards ayant appartenu à cette société mi-politique, mi-religieuse. Un étrange mélange de piété mystique et de libre pensée philosophique. Un amour désintéressé de la culture. Une philanthropie pratique les distinguait nettement de leur génération. Nouvelle scission, beaucoup de loges se joignent au mouvement suédois, mais Reichel lui-même, Novikov et la loge de Pétersbourg dont il était le maître, de même que la loge moscovite du prince Trubetskoy, restent momentanément fidèles à Yelagin. En 1777, le roi de Suède et son frère essayent à Saint-Pétersbourg d'embrigader le futur Paul Ier dans la maçonnerie. En 1778, Novikov et le prince Trubetskoy sont gagnés au système suédois. L'année suivante, Novikov émigre à Moscou et ce fut la fin du système Djelagin, dont le but était la conservation et la transmission à la postérité d'un secret d'amour, de secours et de fidélité. Il voulait aussi apprendre de Cagliostro l'art de faire de l'or. C'était un système parfaitement étranger à la politique. À Moscou, Novikov, en compagnie de son fidèle collaborateur Schwartz, réorganise la maçonnerie pour en faire un puissant propagateur des Lumières. Schwartz indiquait à Novikov les livres à traduire ou à faire. À l'université, en 1781, il fonda la Société Amicale Savante pour la diffusion des Lumières en Russie. L'année précédente, Novikov avait fondé la loge secrète Harmonie, qui devait rallier toutes les loges existantes. Après le voyage de Schwartz à l'étranger, la maçonnerie russe, grâce à son entremise, fut déclarée indépendante de la maçonnerie suédoise et Schwartz est chargé de la représenter au congrès de Wilhelmsbad en juillet 1782. Le convent constitue la Russie en 8e province indépendante, avec à sa tête un grand maître provincial, poste qui reste vacant en attendant que le futur Paul Ier vienne l'occuper. Les Rose-Croix exercent bientôt l'influence prépondérante, mais ne tarderont pas à prendre eux-mêmes deux directions différentes, l'une spiritualiste et morale, l'autre plutôt philosophique et savante. La première veut lutter contre la chute de la moralité dans la société, qui serait due en partie à l'influence de la philosophie française, en partie à la structure sociale d'alors. La deuxième, dans un essai de construction positive, s'oppose au scepticisme des encyclopédistes. Selon Schwartz, l'homme contemporain, depuis la chute d'Adam, n'est qu'un vase putride et malodorant. De l'être pur, primitif, il ne reste qu'une étincelle transmise par les Juifs aux Rose-Croix. Malgré le désir de perfection qui les animait, l'ascétisme des maçons russes n'alla jamais jusqu'à la négation des arts et des sciences, bien au contraire. L'activité de la Société Amicale Savante et de la Compagnie Typographique ne peuvent se comprendre que par l'essence de la franc-maçonnerie. Certains maçons auront, à vrai dire, des vues curieuses relatives à la théologie ou à la science. C'est ainsi que les chimistes sont les serviteurs de l'Antéchrist, selon Lapourine. Les vues politiques sont en général très modérées ou même franchement réactionnaires. C'est ainsi que Lapourine, par exemple, était contre l'affaiblissement des liens de dépendance entre serfs et seigneurs. Affaiblissement, selon lui, plus dangereux qu'une attaque de l'ennemi, et qu'il ne croyait pas à l'abolition du servage en Russie. Le pieux Karamzin, lié avec Novikov, et qu'on surnomma Ramsay, partisan de la patience historique, avait des opinions similaires. La haine de la Révolution française et des Français eux-mêmes était souvent très vive chez les maçons. Ceux-ci étaient assez souples pour s'adapter à tous les régimes et gouvernements, mais le régime, lui, ne l'était pas assez pour tolérer longtemps des sociétés secrètes qu'il ne contrôlait pas aisément. Après les persécutions de Catherine sous Paul Ier, qui était l'un des leurs, ils commencèrent à renaître. Catherine à peine morte, Novikov sort de prison, Radichev aussi. La surveillance cesse sur Lapourine, Tatichev circule librement, etc. Mais Paul Ier est instable, à demi-fou, et rien n'est sûr avec lui. Le règne d'Alexandre Ier, également maçon, sera pendant quelques années l'âge d'or de la maçonnerie russe. La composition des loges perd alors son caractère presque exclusivement aristocratique pour accueillir officiers, médecins, maîtres d'école, etc. Mais le nombre même des maçons inquiète bientôt le pouvoir, et ceux-ci doivent souvent se réfugier dans les sociétés politiques secrètes des futurs décabristes. La maçonnerie à cette époque est aux yeux du pouvoir considérée comme particulièrement dangereuse. Les loges finissent par être définitivement interdites en 1821-1822, ce qui ne signifie évidemment pas que la maçonnerie ait en fait cessé depuis ce jour-là d'exercer absolument toute influence en Russie. Madame Bakounine Sorgin a publié en 1940 à l'Université libre de Bruxelles un précieux répertoire biographique des francs-maçons russes. Il compte près de 700 pages et nous permet de comprendre l'importance des loges pour l'histoire sociale et littéraire de la Russie entre 1770 et 1822. Les écrivains connus ne s'y comptent pas. Depuis Kherashkov jusqu'à Pushkin, en passant par Novikov et Radichev, Karamzin et Baratinsky, Rylieff et Kuchelbecker, Bestoujev, Marlinsky et quantité d'autres, peut-être encore Kapnist et Derjavin, etc., etc. Nous y trouvons deux ou trois empereurs, des généraux, parmi lesquels Michel Orlov et Pushchin, ou l'illustre Kutuzov, des grands seigneurs à foison, une douzaine de princes Troubetskoy, quatre Kutuzov, 12 Narishkin, 5 princes Wabanov, 11 barons Korf, etc., etc. La plupart des décabristes étaient maçons, mais aussi beaucoup de leurs adversaires. Parmi les personnages que ceux qui assimilent encore naïvement maçonnerie et anticléricalisme s'étonneront de trouver chez les frères maçons, figure entre autres le très catholique Joseph de Maistre, qui exerça en Russie une si forte influence. Ô ironie, le futur général des gendarmes, Comte Benckendorff, qui persécutera Pushkin presque toute sa vie, était le frère en maçonnerie du poète. Le père de ce dernier était déjà maçon, le fils le deviendra à la loge Ovid numéro 25 de Kichinev, celle, dit-il, à cause de laquelle ont été supprimées toutes les loges en Russie. Et, la loge dissoute, il écrira maints poèmes au brouillon sur les feuilles de compte de celle-ci. Les bibliographes russes du temps classent les ouvrages relatifs à la maçonnerie sous la rubrique générale « théologie », dans la sous-section « secte ». On y trouve, par exemple, en 1784, « Le maçon sans masque » ou « Authentique secret maçonnique ». Ou encore « Les voltairiens » ou « Histoire des jacobins », exposant toutes les pensées criminelles antichrétiennes et les secrets des loges maçonniques. Traduit du français, 12 volumes, 1805-1809. En 1829, le mot était déjà devenu une injure, comme voltairien, dans la bouche des vieilles femmes. Et dans Eugène Onieguine, le poète nous laisse entendre qu'être franc-maçon, pour les villageois, c'était être quelque chose comme buveur de vin rouge. Enfin, les innombrables lecteurs de Guerre et Paix se souviennent de la société maçonne du temps des guerres napoléoniennes grâce à Pierre Bezoukhov et à ses fréquentations.
Monsieur André Meigneux, chargé d'enseignement à la faculté des lettres de Poitiers, vient de nous parler de la franc-maçonnerie en Russie.
C'était Heure de culture française, la franc-maçonnerie russe par le professeur André Meigneux, alors chargé d'enseignement à la faculté des lettres de Poitiers. Première diffusion sur France 3 nationale le 10 décembre 1962. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.